bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Soyez les bienvenus dans la bande originale avec Leïla Kadour.
Oui, bonjour.
Formidable hier soir, Leïla. Formidable.
Merci.
Marina Rollman, Daniel Morin, Gilbert Aldou, tout à l'heure Tanguy Bastureau et nos invités Carole Rocher et Thomas Njijol. On ne savait pas comment fêter la Saint-Valentin, on s'est dit on va les faire venir ce jour-là.
C'est génial, c'est très bonne idée.
C'est chic, non ? Black Snake, ce film, cette légende du serpent noir, avec, on va dire quoi, un super-héros, un anti-héros ou un mec qui se rêve, héros, Thomas ?
Je pense que super-héros, anti-héros, ouais. Ouais, un mec qui se rêve, non, mais oui, c'est un super-héros.
Il y a des moments...
Au début, ouais.
La scène où il se dit, je suis un super-héros, mais je veux savoir lequel, donc il se teste en Superman, Spider-Man, c'est tellement drôle.
Écoutez, voilà, on a repris quelques codes un peu connus, et puis on s'est bien amusé, et c'est vrai que il se rend vite compte, ce qui était jouissif, c'est qu'il est à côté de la plaque.
Et c'est un bonheur à voir.
En tout cas, c'est un conseil qu'on peut donner à tous ceux qui se prennent pour des super-héros. Ouais. Essayez de vous coller contre un mur. Si vous tenez, vous êtes Spider-Man. Si ça marche pas, reconsidérez la chose. Ce film sort en salle le 20 février prochain, mercredi prochain. On va en parler puisque vous l'avez réalisé ensemble, Carole et Thomas. On va évidemment parler plus longuement. Mais d'abord, des questions vous concernant l'une comme l'autre. Et on va voir si autour de cette table, on a un peu travaillé pour une fois. Nicolas Duvauchel et Joey Starr ont une méthode bien à eux quand ils s'adressent à Karine.
Il appelle mon
pote. À Carole Rocher, pardon.
Il appelle mon pote, ils disent il.
Carrément, en direct, ok.
C'est ça.
C'est au masculin.
C'est vrai. Ouais, bah après, je sais pas comment je dois le prendre, mais je le vis
bien. Ils sont au courant que vous êtes une femme?
Je sais pas.
Mais alors, pardon, c'est...
Peut-être
c'est...
pas.
Et ça n'a pas été une demande de votre part, c'est une vanne pour dire, ok,
oui, c'est...
toi t'es pote.
Voilà, exactement.
Toi, tes potes.
Exactement.
Sous-entendu, déjà, il n'y a pas d'allusion, il n'y a pas de drague entre nous. Tu rentres dans la catégorie potes.
C'est ça. C'est assez macho comme.
Ouais,
comme
c'est ça. Dire,
pour être
ouais,
des
c'est
copines,
ça.
Mais non.
Mais c'est
non,
un rapport d'un copain. C'est un rapport d'individu à individu. On s'en
c'est
fout
ça.
Du genre.
Ah,
c'est
ouais.
Pas mal.
Mmh. Ouais, exactement.
Ceci dit,
ouais.
Il vaut mieux, si je peux me permettre, il vaut mieux que vous soyez potes garçons que copines, parce que les copines, elles se disent tout et elles sont sans filtre, j'ai l'impression, les filles entre elles, alors que les mecs, ça reste quand même.
Oui, c'est vrai. Ils ont une certaine
plus...
pudeur, j'ai l'impression.
Mais vous restez Carole quand même. C'est oh là là, Carole, il est en retard.
Oui, après, c'est un non-événement. Je vais pas en parler pendant 2 heures, parce que j'ai pas grand-chose à en dire.
Avec quelle tenue spécifique Thomas Njijol met-il des baskets?
Son smoking?
Non.
Peignoir?
Son slip?
Peignoir?
Pas loin.
Peignoir robe?
Pyjama.
Exactement. Pyjama basket?
Non, c'est survêtement. J'ai beaucoup de mal à mettre des baskets et ironiquement, j'en ai aujourd'hui quand je vous parle.
Je suis désolé Thomas, dans GQ, l'interview,
je
ne mets des baskets que lorsque je suis en pyjama. C'est radical ce que je vais dire, mais je me trouve ridicule en basket jean.
Ouais, c'est vrai, j'ai beaucoup de mal à mettre jean basket, Carole peut en témoigner. Là, aujourd'hui, j'ai mis des baskets parce qu'elles sont toutes neuves j'ai un pantalon.
Le premier réflexe de Carole, c'est de dire, il a mis quoi?
Ouais. Non, mais c'est vrai j'ai beaucoup de mal maintenant, je mets beaucoup de chaussures. Je suis plus à l'aise en chaussures qu'en basket. Voilà.
Mais alors, c'est une question d'élégance, de regard des autres ou de confort personnel?
Non, le regard des autres, je ne vis pas pour les autres, mais c'est surtout moi, en fait. J'aime bien. Et puis même, il y a un moment où j'ai passé peut-être un cap. J'ai passé beaucoup de temps en jean basket quand j'étais jeune. Et là, je pense que. Voilà, je suis passé à autre chose.
Vous
mais
avez
c'est
grandi
pas une...
peut-être, Thomas?
Si on met ça sur le fait de grandir, non, pas à ce niveau.
Il y a un cycle
qui est passé.
Il y a un cycle de la vie où au-delà de 75-80 ans, tu remets des baskets.
Ouais, parce que le confort.
Et là, t'es un peu pantoufle.
C'est vrai parce que j'avais vu Jean Rochefort qui avait des belles Jordan au pied.
C'est ça.
La classe. Et ça lui allait super bien.
Et quand on croise Jack Lang, pareil, monsieur.
Ça. La maman de Carole sur nommé par le nom d'un comédien américain très célèbre.
De Niro ?
Non.
Pacino ?
Non.
Travolta ?
C'est pour ce côté quoi ? Un peu casse-cou ?
C'est comédie
fonceuse ?
Jerry Lewis.
Ouais, non, plutôt le côté...
Clint Eastwood.
Autoritaire. Clint Eastwood, exactement.
Clint.
Mais, ah ouais. J'ai pas compris, vous avez dit la maman.
Oui, ta maman.
Bah oui.
Ma maman m'appelle Clint Eastwood.
Elle vous surnommait.
Ah bon ? Mais je suis pas au courant.
Paris Match l'année dernière, donc c'est pas si vieux que ça, 2018. Ouais. Ma mère me surnommait Clint Eastwood car j'avais un caractère très déterminé. Aujourd'hui, ça peut également arriver à Thomas.
Peut-être elle a dû me faire une réflexion, mais...
Genre t'es une espèce de Clint Eastwood.
Ouais.
Si c'est dans Paris Match, c'est que c'est vrai, Carole.
Vous avez bu
C'est que c'est vrai.
Et vous avez fait boire le journaliste
Quel genre de petite fille vous étiez? Comme dirait Zazie, garçon manqué qui fait une fille, qui donne une fille réussie.
Garçon manqué.
Non.
Oui, un petit peu. C'est vrai que j'étais pas dans les codes très fifi, mais bon, j'aimais bien les robes, les trucs comme ça. Mais j'étais assez introvertie et puis
timide.
Très timide. C'était très grave. Et très sauvage.
On devient comédienne ou actrice pour. Battre cette timidité?
Je le suis encore finalement, mais j'étais très introvertie.
Vous êtes timide?
Et donc beaucoup moins.
Vous glissez sur le ventre lamentablement.
C'est ça, avec les culottes à l'air.
Tellement drôle.
Ouais. Tellement drôle. Ouais.
Ridicule.
C'est drôle.
On a bien ri. Hein.
C'est super.
C'était très drôle.
Aussi. Vous, je sais pas, mais nous, on a...
Parce que Thomas me dit, ce serait super que tu tombes. Je dis, ok, bah vas-y. Puis je suis vraiment tombée comme une pauvre fille.
De
quoi,
tout son cœur.
Et la glissade tout du long.
Les jambes raflées et tout, n'importe quoi.
Bon, on va en parler. Allez, dernière question. De quelle phobie souffre Thomas?
Les araignées,
les avions.
Les baskets.
Il est claustro.
Non.
La nuit.
Les clowns.
Non, mais c'est une phobie.
La pauvreté.
Pardon, c'est une phobie que je trouve aussi dingue, ouais.
Ah, oui.
Aussi dingue que les clowns.
Que les clowns.
Ah dingue, c'est pas dingue les clowns. Hein, pardon.
Vendredi 13.
Les prêtres.
C'est des personnes, c'est un type de gens.
Le confessionnal.
Non, c'est un animal.
Les chiens.
Non.
Bah, les prêtres.
Les crocodiles.
Les pigeons.
Les lézards.
Les oiseaux. Les pigeons.
Les grenouilles.
Les éléphants.
Les mouettes.
Les serpents.
Non.
Tout ce qui est oiseaux.
Les hirondelles. Les perroquets.
Ça vole.
Alors ça ne vole pas.
Ah. Les poules.
Mais ça a des ailes.
Les gerbilles.
Je vais prendre poule, quoi.
Les poules, ouais.
Mais vous avez peur des poules.
Ouais, mais je comprends.
Bon, j'ai pas été souvent confronté à des poules. Ayant grandi dans le Val-de-Marne et vivant à Paris, je vais pas faire genre, j'en croisais tout le temps. Il y avait un vrai problème avec moi et les poules. Mais les quelques fois, j'étais dans des fermes. Et c'est surtout, quand on a tourné le film Fast Life, j'avais une scène où je devais porter une poule et c'était horrible. Franchement, j'ai souffert. C'est Olivier Marchal qui m'a aidé, qui lui, visiblement, n'a aucun problème.
Bah, lui, les poulets, c'est son truc.
Oui, voilà.
Enfin, que j'affaisse.
Petit jeu de mots.
Animateur,
ta place aux grosses têtes est réservée. J'avais très peur et Marshall, lui, il m'a aidé, il m'a accompagné, il a pris une poule, il était limite à vraiment, on a dit que c'était son animal de compagnie, puis il m'a.
En tout cas, visiblement, vous n'avez pas peur des serpents parce qu'il y a une scène dans ce film où je me suis dit, c'est pas possible que ce soit des effets spéciaux, c'est pas un trucage, c'est pas fait à la palette. Comment a-t-il pu supporter, parce que beaucoup plus de personnes, je pense, ont peur des serpents que des poules, supporter qu'un serpent lui rampe comme ça tout le long du corps jusqu'au cou?
Non, au début j'avais peur, hein, je vais pas faire genre j'avais pas peur, mais en fait avant le tournage, le dresseur donc de serpent m'a familiarisé avec l'animal, donc je l'ai vu une fois, deux fois, trois fois, et puis on est pas activé dans le 11e avec nous maintenant. J'ai tiré la chasse d'eau hier, je ne sais pas où il est actuellement.
Bon. Ce Black Snake, donc cette légende du serpent noir au cinéma le 20 février prochain, mercredi prochain. En fait, vous avez commencé à écrire seul ou avec des scénaristes?
Non, on a écrit avec deux co-auteurs.
Et Carole est venue adapter votre scénario.
C'est ça, en fait.
Qu'est-ce qui a changé entre la première version et l'actuelle, Carole?
Quand on a pris la décision de co-réaliser, on a réadapté. On a aussi, du coup, eu des producteurs et on a réadapté.
Pardon, ça s'est passé dans ce sens-là. D'abord, l'idée, c'est pas de réécrire ensemble, puis donc de réaliser. C'était d'abord, on va réaliser ensemble, donc je vais réécrire.
Exactement. On a réadapté. Ouais, voilà. Bon, bref.
C'est pas ce que vous avez réalisé que vous vouliez changer.
Voilà. Donc, on a changé quelques scènes aussi pour le budget. Parce qu'à un moment, justement, il fallait adapter cette histoire de super-héros à un budget concret, à une réalité française. et puis, voilà, repasser les dialogues, retravailler des personnages. Et puis, ça nous permettait d'avoir une vision commune et d'échanger autour de ça. Donc, c'était très bien. Et voilà.
Vous avez changé quoi au personnage ?
Oh, rien, c'est des petits... Des petites choses.
Des dialogues, ils sont savoureux, quoi, les dialogues. Moi, j'ai noté des phrases entières, on le dira tout à l'heure, mais je les relis là, juste à l'instant, je peur de rire. Bah, quand le grand-père de Clotaire, qui est un spécialiste d'arts martiaux, donc bon...
Clotaire étant le super-héros,
ce chirurgien qui revient au pays, absolument, que vous incarnez, obsédé par les meufs, et puis qui est obsédé par la sape. Quand son grand-père décède, on a cette scène traditionnelle avec un plan au-dessus du corps au sol et vous qui éplorez
et vous criez,
il revient deux fois dans le film
et vous criez génial. C'est vraiment dommage. j'ai pleuré de rire, quoi. Il y en a mais tout un tas comme ça. Maintenant je dis c'est vraiment dommage.
Ouais, écoutez, j'avoue que c'était pas préparé pour le coup. C'est un des rares trucs qu'on n'avait pas écrit. Je le gardais pour moi parce que je me suis dit si je le dis ça va tomber à l'eau. Donc, je me suis dit, quand il meurt, il faut que je dise un truc à la caméra. Mais je voulais pas le dire ni à Carole, ni à la script, ni à personne.
Voilà, vous avez surpris tout le monde.
Voilà.
Moi, j'étais derrière le combo, j'en pouvais plus.
J'ai crié tout seul, en intensité, avec les yeux humides.
Voilà. Et même quand il sauve les gens.
Sachant, Carole, évidemment, que le qu'est-ce qu'il est con est un compliment ultime.
Ah, totalement. Si je dis qu'il est, si je le trouve con, c'est qu'il est génial.
C'est un bon point.
Ouais, merci.
Et même quand vous sauvez des villageois, parce que ça y est, vous êtes devenu vraiment ce super-héros, et que tout le monde veut vous remercier, mais qui êtes-vous? Et vous êtes parce que vous venez de prendre une balle et il crie mais je vous emmerde. Et c'est génial, c'est-à-dire que ça vient complètement contrecarrer toutes les règles.
Mais
du
il reste
film
très humain, il a une mission qui le dépasse, ce jeune homme, vraiment.
Elle est en train de raconter tout le film.
On espère donner envie, surtout parce que c'est vrai que vous jouez de ce décalage permanent avec les codes des films de super-héros et avec l'autodérision, la trouille de ce super-héros de temps en temps qui, dès qu'il y a un coup de fusil un peu trop violent, va se cacher derrière une voiture et revient avec « je maîtrise, je contrôle tout derrière ». Non, c'est extrêmement drôle, et y compris l'autodérision sur la bogossitude, sur la sape, sur la dégaine. Enfin, il fallait en permanence jouer ce décalage-là.
Mais ce qui était chouette aussi, c'était surtout de faire un film dans les années 70. C'était super propice à ça. C'était une époque assez libre. Il y avait du style. Il y a pas seulement qu'en Afrique, d'ailleurs, un peu partout dans le monde, il y avait une sorte de libération. Et voilà, on était dans un esthétisme assez beau, donc on s'est pris la tête pour non seulement faire une comédie.
Tête, mais on s'est amusé à le faire. Enfin, c'était un vrai plaisir de se permettre d'aller avec la costumière, d'aller là où on voulait dans les costumes et de créer un vrai, un vrai truc esthétique.
Il y a du costard.
Votre personnage, Carole Rocher, est-ce qu'il existait dans la première version ou est-ce que vous lui avez donné du corps ?
Non,
il existait. Alors,
exactement comme ça en plus.
C'est-à-dire plutôt...
Ce côté un peu intrépide, jusqu'au boutiste, utopiste d'ailleurs.
Pas facile à draguer, pas facile à séduire,
Tout le personnage était déjà comme ça, j'ai rien inventé, enfin moi j'ai rien ramené à part moi, voilà.
Oui, votre jeu,
ce qui est beaucoup. C'est déjà
énorme, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, monsieur.
Exactement.
Faut en profiter.
On dira pas de nom.
Comment vous êtes partagé la direction et la réalisation?
On n'a pas vraiment partagé, on n'a pas de règles de travail. Le truc qui avait fait qu'avant le film, on sortait, avant la prépa du film, on sortait de mon dernier spectacle, Carla a mis en scène. Et c'est vrai que...
Elle en a mis plusieurs en scène.
Elle a mis que mon spectacle.
Que le dernier?
Oui.
D'accord.
Ouais.
Je croyais qu'il y avait eu les deux.
Mais qu'on avait vu, parce qu'on avait reçu
Thomas. Non, on n'était pas ensemble à l'époque.
Ouais.
Voilà.
Non, dites pas trop non plus. Non, mais c'est celui où on s'était vu.
Exactement.
Oui, je pensais, je pensais qu'il avait une
autre. Vous parlez de la femme de votre vie qui, quand elle souffle, vous tombez.
Exactement. Voilà. La Corse, la fameuse. Voilà. Mais ouais, en fait, on sortait de ça. Donc, du coup, c'était tellement bien passé que quand on a commencé à travailler sur la réalisation ensemble, c'était une évidence.
Vous voulez pas faire un petit rototo pendant que vous parlez
Non. Mais on a la radio, on peut avoir des attitudes un peu de rototo. En fait, c'est vrai que maintenant, c'est filmé.
Un black rototo, quoi. Ça va être aussi dans le personnage, black quoi. Rototo. Black rototo.
Ah, pour le 2, personnage. Mais non, en fait, on est investi à tous les niveaux, en fait. Que ce soit la mise en scène.
Quand l'un était devant la caméra, l'autre se dirigeait derrière, était au combo et,
voilà,
et
après, deux indications.
Mais souvent,
ensemble.
Vous étiez ensemble. Voilà.
Non, mais c'est vraiment depuis la réécriture du scénario jusqu'à la prépa. Ça n'a été que des échanges entre nous. Donc,
est-ce que vous avez apporté votre expérience d'actrice de film policier, film noir, mais au sens du genre?
Oui, je pense. Enfin, oui, c'est sûr, même. Enfin, malgré moi, quoi.
Non, mais il y a des codes aussi.
Oui, il y a des codes, en tout cas. Mais même sur son spectacle, en fait, finalement, ça a commencé comme ça. C'est-à-dire que moi, les codes comiques, tout ça, je connais pas du tout ça. Et pas que je m'en fiche, mais enfin. Je dois amener ce que je suis moi et mon expérience. Et c'est vrai que la preuve en est, parce que c'est ce qui s'est passé sur Black Snake et c'est ce qui s'est passé sur son spectacle. Moi, je suis d'une école où à un moment, il n'y a pas d'autre recette que d'être ultra sincère finalement et d'être soi-même. Voilà, on n'a pas besoin de se cacher derrière des codes comiques. Enfin, à un moment, n'importe qui dans le public sait reconnaître la sincérité. Et à un moment, si tu mets
vous
tes tripes,
que,
même
que Black Snake, c'est un peu Thomas.
Non, c'est pas que c'est Thomas Gijol, il a mis de lui-même pour de vrai. Ouais. Il a été ultra sincère, il s'est amusé pour de vrai. Voilà, on peut aussi.
Non, mais pour compléter ce que tu dis et aller dans ce sens-là, c'est moi mes références, en tout cas une des mes grosses références que je cite tout le temps, mais parce que vraiment je trouve que c'est quelqu'un de formidable et comme il est vivant autant l'honorer maintenant, c'est Pierre Richard. Et Pierre Richard dans son humour, moi je trouve que c'est ultra sincère, quoi. Il est gauche et tout, mais c'est pas poussif, quoi. On sent que le type, c'est à se demander s'il est vraiment comme ça, quoi. Ouais. Mais il fait les choses pour de vrai.
Pour resituer quand même le début de l'histoire, parce que tu as parlé du père, il faut préciser que le père pourrait être le père de Kung Fu. Le grand-père de Kung Fu. Vous avez le sentiment d'avoir été récupéré dans une poubelle.
Ouais, ça c'est pas de sentiment, c'est ce qu'il m'a raconté.
Ouais, c'est ça.
Vous connaissez pas vos parents.
Voilà, il me cache mon passé pour me protéger. Donc il a inventé cette histoire en me disant que j'ai été trouvé dans une poubelle.
La première scène où il vous frappe, enfin où il veut combattre avec vous et il vous met.
Il lui demande s'il continue de s'entraîner.
C'est ça.
Pratique. Voilà, exactement.
Et lui met une filet de tarte.
Bref, il y a ensuite cette transmission après son décès où il se retrouve presque avec donc ces fameux super pouvoirs, cette mission aussi de devoir faire régner la justice. Il fallait lui trouver un costume à ce super héros. Donc ça,
il y a un tâtonnement.
Il y a un peu de recherche. Il n'est pas sûr. Et puis comme je le disais, on est dans les années 70, donc bon. Ça part vraiment très loin avant de trouver le vrai style Black Snake.
Il y a des belles choses,
il y a des belles pièces.
Surtout qu'il y a une belle boutique et qu'il y a le sens de l'esthétique.
Exactement, ouais.
Faut vraiment vous voir dans cette tenue de super-héros parce que ça a pleuré.
Elle est très compliquée. Même moi, en la mettant, j'étais pas sûr.
Qu'est-ce qui a été compliqué à faire pour vous, les scènes de cascade, parce qu'il y en a quand même beaucoup, ça reste un film d'action, il y a évidemment beaucoup d'humour, la toile de fond et l'humour,
Je me suis quand même préparé, même si je suis très nul dans tout ce qui est lors des scènes de combat, visuellement, mais comme c'était une comédie, ça tombe très bien, c'est raccord, mais
c'est pas facile.
Pour être mauvais, entre guillemets, en comédie,
c'est
donc drôle.
C'est plus difficile.
Ouais, c'est difficile, donc ça demande un entraînement. Ouais. Donc je me suis quand même entraîné, mais je voulais pas dépasser le fameux truc où je deviens une montagne de muscles.
Alors, quelle référence vous aviez en faisant le film? On va le préciser tout de suite. Vous avez réalisé le film avant que Black Legend ne sorte, puisque je sais que dans beaucoup d'interviews...
Panthère,
ne sorte. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de questions sur...
Mais c'est pas du tout gênant, au contraire.
Ce hasard des sorties cinéma. Non, mm-hmm. mais si c'est une tendance mondiale, tant mieux.
Complètement.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de héros noirs ou africains pendant des siècles, et puis d'un coup, il y en a deux qui sortent en même temps.
C'est dingue.
Voilà.
Pas le même genre.
Rien à voir.
Mais c'est ça qui m'a rassuré en regardant Black Panther, parce que je me suis dit, peut-être inconsciemment, on a fait une parodie ou autre, et je l'ai regardé, mais j'ai dit, bon...
Tout va bien.
Tout va bien. Ouais, tout va bien. Il est tellement digne, grand, fort, et moi tellement nul, faible, lâche.
quelles étaient vos références? C'était Austin Powers, c'est OSS 117,
c'était pas vraiment des références, mais si vous voulez, on a...
J'ai pensé à OSS, moi, à cause des années 70.
On va dire, abreuvé toutes ces choses, ça fait partie un peu de notre culture, inconsciente ou pas. Donc, OSS a pas été une référence directe, mais pour le coup, Karel et moi connaissons le réalisateur Michel Hazanavicius, qui d'ailleurs avait vu une projet de travail et avec qui on avait discuté. Donc, il fait partie des gens, effectivement, qui ont... peut-être inconsciemment influencé, mais en tout cas, il a eu de précieux conseils aussi à un moment donné du film.
Et les références en film de super-héros, c'est Marvel, c'est James Bond,
il y a beaucoup de clins d'œil, notamment il y a un clin d'œil à Bruce Lee au Jeu de la Mort, la façon dont vous longez le bâtiment.
Il y a pas mal de clins d'œil à plein de films de références à des films comme ça, vous citez Bruce Lee, James Bond, évidemment, il y a même du Gladiator, mais
référence à Jean-Paul Belmondo aussi.
Totalement. Ouais. Joss Beaumont, le professionnel. Ouais. Je vois et que puis... monsieur...
Et puis il y a Édouard Baer.
Un certain âge.
Il y a Édouard Baer, le personnage d'Édouard Baer, parce que ce qui est aussi super dans ce film, c'est que non seulement...
L'enflure, tu veux dire.
L'enflure, oui. Non. On s'attend à un certain nombre de blagues sur justement cet anti-héros. Et puis on a aussi beaucoup de fond. C'est ça, moi aussi, qui m'a beaucoup plu dans votre
historique,
film.
Historique, presque. Ouais,
y a des messages qui sont quand même délivrés. Le premier d'entre eux, c'est quand votre grand-père a peur que vous soyez converti à l'islam. Vous soyez devenu musulman. Non, mais voilà, c'est des petits éléments comme ça qui sont, je trouve, disséminés hyper intelligemment dans le film, où on nous fait pas la morale, où on nous dit pas ce qu'il faut penser, mais voilà, on vous laisse entrevoir.
Le rapport colonial.
Et j'en viens à Édouard Baer. Et Édouard Baer, ce personnage, il est fantastique.
C'est la France Afrique.
C'est la France Afrique. C'est tout d'un coup ce vieux dignitaire avec, on connaît un peu l'élan verbal d'un Édouard Baer. Et bien là, il incarne à la perfection et il est très condescendant finalement. Avec tous ces petits noirs qui l'entourent, hein, parce que finalement, il ne faut quand même pas déconner, il y a l'histoire qui nous précède, et je ne vais pas dévoiler non plus le film, il y a des répliques aussi à pleurer.
Comment il appelle Papa, non, c'est ça?
Papa, oui.
Il est extraordinaire hein, dans le film.
Je trouve que c'est ça la plus grosse référence à OSS 117, c'est le personnage d'Edouard Baer.
Cette espèce de racisme facile, un peu condescendant, inconscient des fois, mais
totalement inconscient, c'est normal pour lui.
C'est paternaliste et menaçant. De temps en temps, c'est attention, si vous ne faites pas comme ça, moi j'appelle Paris.
Exactement.
J'appelle Paris. Non, mais
tout est là. Tout est dit.
C'est dur d'être drôle en étant aussi méchant, mais Edouard était vraiment, vraiment top.
Réussi, ouais.
Donc vous l'avez compris, on a aimé, c'est réussi, et ça s'appelle Black Snake, la légende du serpent noir, film avec et réalisé par Carole Rocher et Thomas Ngijol. On va continuer d'en parler dans quelques instants. Maréchal, futur succès.
Mon cher Naguin, un succès énorme.
Le
succès de la légende du serpent noir tient bien sûr à la réalisation épatante de Madame Rocher-Carole. Mes hommages, madame. Et de monsieur Ngijol, Thomas, mes compliments, monsieur, vous allez bien?
Très bien, merci.
Bien, réalisation dont la qualité ne vous a pas échappé, Nagui. Ce succès tient aussi à l'interprétation épatante de madame Rocher-Carole, mes hommages, madame. Et de monsieur Ngijol, Thomas, compliments, monsieur, vous allez bien? Interprétation dont la qualité ne vous a pas échappé, Nagui. Et je ne parle même pas du scénario... Signé Ngijol Thomas.
Oui, ça va.
Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, Nagui, mais...
Alzheimer, peut-être.
J'ai le sentiment étrange de moi. Alors, faudrait pas hésiter à me le dire.
Oui.
Je peux tout entendre, tout accepter.
C'est vrai?
Je n'ai pas une flippette, donc... c'est... Bon. Bon. Je ferai face. Alors, ça doit vous arriver, vous aussi, Nagui, non? Parce que parfois, j'ai le sentiment que vous posez toujours les mêmes questions à vos invités, que ce soit Michel Leb l'autre jour, Philippe Solers, Monsieur Njijol, Mme Rocher. Bon. Bref, si j'ai aimé la légende du serpent noir...
Vous avez dit bonjour à Carole Rocher.
Mais hommage, j'avais oublié.
J'aime bien.
Si j'ai aimé la légende du serpent noir, c'est que, soyez un peu sérieux, j'ai toujours aimé les sapeurs qui en ont dans le froc. Alors, certes, les uniformes de mes sapeurs à moi n'étaient pas aussi clinquants, rutilants que les costards de Clotaire Sangala. Mais, une fois dans le feu de l'action, il fallait les voir affronter nos pires ennemis. C'était en 1954, au Tonkin. Mes légionnaires et moi étions cernés par les viettes du cruel général Boboun dans le fortin de Gang Bang Phok. Une nuit, j'avais donc ordonné à mes sapeurs de creuser un tunnel pour pouvoir nous enfuir et ne pas finir empalés sur des bambous. Et ça nous va bien, comme disait Philippe Laville. Enfin, je sais qui je veux. Ne me jugez pas dans mes citations. Bref. Pour évacuer les gravats du tunnel, nous utilisions des couffins. Épuisés, force de creuser avec nos ongles, alors que je m'étais assis sur un de ces paniers, j'ai ressenti soudain une terrible douleur me transpercer le joufflu. J'ai fait un bond. Trop tard. Impossible de décrocher l'énorme serpent noir qui s'agitait et qui gardait ses crocs plantés dans mon fondement. Ce monstre avait été caché là par Ding, 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 mon aide de camp, qui travaillait pour les Viettes, ce fumier. Alors, je n'ai pas eu le temps de vous dire comment je m'en suis tiré, mais depuis, je ne peux pas rester assis plus de 3 minutes d'affilée. Aussi, vais-je devoir vous quitter tout de suite.
C'est gentil, merci.
Bonne émission.
La bande originale, Nagui. Sur France Inter.
Black Snake, la légende du serpent noir, réalisé, écrit, interprété par Carole Rocher et Thomas Njijol. Il y a des scènes que vous avez retirées parce que dans les codes des films comiques, il faut ne pas faire des films trop longs, il faut du rythme et ouais. À regret, vous avez enlevé.
À regret, il y avait en particulier une scène qu'on aimait beaucoup.
Ouais.
Et on a essayé dans tous les sens de... Vraiment,
elle
c'était
sera
un déchirement.
Dans les bonus du DVD.
Voilà,
c'était un déchirement parce que c'est une scène qui est tellement drôle.
C'était quoi, une scène dépressive.
Voilà, totalement dépressive.
J'étais en dépression totale et à chaque fois qu'on l'a regardé, enfin, nous, ça nous faisait rire forcément, mais c'était mi-figue, mi-raison. On savait pas, enfin.
Il y avait de la gêne?
Non, c'était pas de la gêne. J'étais pour de vrai, comme le disait Carole, j'étais à fond dans le truc, j'étais sincère, donc du coup.
Touchant.
On sortait peut-être même du film. On se disait, mais il chiale pour de vrai ou on savait plus quoi. D'un coup, c'est une. Mais je pense que je joue un César à cause de cette.
Ça part en vrille et tout. Non,
mais
une
bon,
scène.
J'ai pensé au film. Ouais, voilà. J'ai pensé au film. J'ai dit, c'est pas grave, les Césars sera pour l'année prochaine.
En tout cas, il tient bien comme ça. Il y a pas de.
Il y a un rapport entre vous, Thomas, et ce petit garçon qui est génial. Je sais pas quel âge a ce petit. Déjà, il est formidable.
Le petit Mamadou,
comédien.
Oui. C'est un comédien sud-africain.
La façon dont vous lui parlez.
Le Clodo,
espèce
dont vous lui parlez.
Espèce de petit clodo, mais tu pues, casse-toi. C'est fantastique. C'est l'absurde et la méchanceté poussée à part.
Alors, nous avons vu le film. Je suis pas vu la tête du public là, dans le studio d'Inter. Je suis pas sûr. Dit comme ça, ça soit bien.
Ils sont dubitatifs. Tu pues, petit clochard. Ils ont tous regardé. Ouais, d'accord.
Une dame à Nantes, lors de la tournée province, elle a dit un mot génial.
Elle
est venue nous voir, nous a dit ah là là, le petit pouilleux. Mais. Mais vraiment, je regrette.
Non, mais c'est un formidable comédien. Franchement, ouais. Il était top. Il était top et les gens, je pense que c'est la révélation du film.
Il était top, il est toujours en vie.
Il était top sur le tournage. Ah. Oui, il est toujours en vie et lui, il a une carrière, c'est parti. Hein. Voilà.
Non. Et vous l'avez trouvé comment?
Dans la rue.
Ouais.
Non, en casting, en fait, ça a été une révélation quand on est parti en repérage en Afrique du Sud. On a donc fait quelques castings sur place pour certains rôles et on n'avait pas trouvé ce rôle-là en France parce qu'on a casté en France. Et il y a donc la directrice de casting à Johannesburg. Elle a dit, je crois que le personnage dont vous avez écrit, je crois le connaître. Donc, on a vu ce petit garçon arriver. Et c'était lui quoi,
c'était lui.
En deux. Et ce qui est fort, c'est qu'il est donc sud-africain et qu'il ne parlait pas du tout français, donc il a appris tout son texte. Exactement, il a appris tout son texte en phonétique et en comprenant ce qu'il disait quand même, pas de façon bête et méchante.
Comme Mike Brown toute sa carrière en France.
Exactement. C'est ça, c'est Mike Brown qui saura, qui ne savait pas qui chantait, qui sort.
Qui lui est moins en forme que le petit garçon.
Pour l'école,
qui est moins en forme.
Carole Rocher, Thomas Njijol, Michel Gohou, Edouard Baird, donc, Tebaletou Ntouli,
Bernard Menez,
Bernard
Sabine Pacora, Jérôme Le Banner.
Oui, Jérôme.
Tapasudana, Lindsay Caramo, Steve Tiencheu, Eric Abrogua et
Mamadou.
Mamadou.
Ouais. Mamadou
Koulibaly.
Koulibaly.
Voilà. Qui joue Léopold Ekeke somnifère.
Absolument, somnifère.
Ouais. Non mais c'est voilà.
Gertrude, tu prends ton frère le somnifère et tu rentres. Il y a quand même des phrases mais qui sont géniales.
Mais tu l'as pris par cœur, c'est pas possible.
Oui.
C'est pas possible. Si vous voulez pleurer de rire comme Leila Kadrioubadi, c'est mercredi prochain le 20 février au cinéma et ça s'appelle Black Snake, la Légende du serpent noir. Voici Marina Rollman. Légende rouge.
Absolument. En rouge pour célébrer la fête des amoureux. Tout le monde oublie d'en parler. Ah là là, c'est merveilleux. Oui, c'est toujours.
J'ai commencé en disant justement bonne ce fête duo des amoureux de choc à Carole et Thomas.
Absolument. Bravo à eux d'être ici. Et donc, la fête des amoureux, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ce jour où les couples hétéros entament la grande parade de Madame met des sous-vêtements inconfortables, Monsieur achète des fleurs moches. Parce qu'il faut arrêter avec ces roses rouges. C'est vraiment pas beau. Hein. Faut arrêter. On est d'accord.
Mais c'est le code.
Rose rouge.
Ah ouais, mais c'est le code de l'amour, bah ça veut dire je t'aime, les roses rouges.
C'est mortel. Que celle qui aime, ouais. les garde. Mais je me disais, il est peut-être temps de refaire un point sur ces fameuses différences hommes-femmes qui feraient supposément tout le piquant de l'affaire. Parce qu'on pourrait croire que moi-même, je suis enfermée dans une petite bulle idéologique, gaucho, parisienne, France Inter, etc. Et en réalité, j'ai la chance de débattre très souvent de ces questions avec des gens qui sont pas d'accord. Parce que moi, à chaque fois que je fais une chronique où je traite vaguement de féminisme, où j'en parle un peu sur scène et tout, ça me vaut ensuite des hordes de messieurs tout rougeaux qui viennent sur ma page Facebook, m'expliquer la vie avec des fautes d'orthographe, comme ça, ils sont tout énervés. Et j'ai souvent des conversations formidables grâce à eux. Et alors une fois, par exemple, sur la question de traiter les femmes comme des objets, il y a un monsieur qui m'avait écrit et qui m'avait dit, vous comprenez, c'est normal que les femmes, vous deviez faire plus attention à l'emballage, que vous deviez vous faire plus belle, parce que c'est triste, mais c'est comme ça, c'est biologique, nous les hommes, on est plus visuels.
Non.
Ça veut dire quoi? Non, on est des caniches, on voit en noir et blanc, qu'est-ce qui se passe?
Il y a un fond de vérité, hein.
Il avait toute une explication, mais probablement la même que toi, Daniel Morin. Mais il dit non, mais pas du tout, mais ça s'explique scientifiquement, ça date du paléolithique. Puis je dis, mais tu bossais pas à la poste? Oui, mais j'ai lu des blogs. Alors il m'avait fait toute une espèce d'histoire, il m'a raconté, non, parce qu'en fait, tu vois, à l'époque, on était tous des chasseurs-cueilleurs, ok? Tu vois, mais vous, les filles, vous étiez dans la caverne, faisiez des panini.
Oui.
Et nous, les hommes, on allait chasser des proies, tu vois, mais elles étaient dans les plaines, très très loin. Et du coup, pour les voir de loin, on a dû développer un air qui va de là à là, et c'est pour ça que tu dois mettre des talons. Je suis désolée, voilà, c'est comme ça. C'est un peu circonspect, tu t'abreuves de liens, tu sais, genre féminazi/skyblog/macron-est-un-reptile.fr. Ah bah, s'il y a des recherches académiques, alors très bien.
Oui.
Autre sujet, autre théorie sur la question du couple. Un jour, il y a un monsieur qui m'avait envoyé un message pour me dire la monogamie, c'est très bien pour les femmes, ça a été inventé pour vous, ça vous va très très bien, mais pour nous, c'est pas possible.
Ah, c'est Yann Wax.
Ouais, quasi. Il m'a dit non, nous, les hommes.
C'est pas dans nos gènes, c'est ça.
Voilà, c'est ça, on peut pas avoir une seule partenaire toute notre vie, parce qu'en fait, nous, on est programmé comme ça depuis des millions d'années, mais nous, on est des guerriers. Ouais. On doit distribuer notre graine partout, mais comme ça.
On ne peut rien, c'est comme ça.
Vas-y, mais tu travailles à la Société Générale, tu es asthmatique, personne veut ta graine. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu t'agites comme ça? Enfin, personne veut ta graine. Tout ça pour dire, messieurs, tout le monde a envie de faire l'amour. Vous n'êtes pas obligé de convoquer Raon à chaque fois que vous les tirez un coup. Donc, je propose, en cette Saint-Valentin, un petit peu quand même. Donc,
fils
je propose.
De Crow.
Exactement, en cette Saint-Valentin, que tous les paléontologues amateurs se calment un peu le bulbe et que vous soyez monogame et très bien propre sur vous ou polyamoureux et complètement déglingué, je vous souhaite à tous une très belle fête.
Une belle Saint-Valentin, merci à toi, Marie.
France Inter, Nadie, la bande originale.
J'ai beaucoup apprécié aussi les vêtements inconfortables qu'une fille se sent obligée de mettre pour la Saint-Valentin.
C'est vrai, c'est... Moi, je suis tout non, en confort.
Non, ce que tu as, c'est dans ton papier.
Pour la Saint-Valentin,
dans ton papier.
Mais oui.
Les portes-jartelles, les bas, les machins.
Alors qu'il y a des garçons à qui ça irait très bien. Qui ont la cuisse fuselée, Daniel Morin, par exemple. J'ai déjà vu un porte-jartelle, ça va très bien.
Ce genre à la nouvelle âme.
Oui, absolument. On s'y revoit, c'est ça.
Black Snake, la légende du serpent noir, avec une bande originale où il y a des références aussi musicales entre Bob Marley, OK Corral, Le Train Sifflera Trois Fois.
Oui, la musique a été composée, le score du film, par Skred, qui est le producteur d'Orelsan. C'est celui qui a fait ses quatre albums, ou trois. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux.
Sur les références musicales, je me suis totalement vautré. Donc c'est Johnny, surtout.
Johnny. Ouais. Mais j'ai fait le mec qui suivait. Alors moi, je c'était faux, mais je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Exactement. Tu y aimes pour un fou, oui. Ouais, ça lui va très bien, ça mon personnage bien. De Clotaire. Ouais, ouais. Non, non, enfin, c'est vrai qu'il y a des musiques comme ça, de Johnny à Booba, en passant par des musiques composées aussi sur le score, par ce fameux Scred qui a fait un travail exceptionnel.
Aurel San?
Alors ça, c'est la bande originale inspirée du film qui sort demain, où on retrouvera effectivement Aurel San, entre autres. Qui je pourrais citer, il y a Oxmo Puccino, il ouais. y a des rappeurs comme Tossé, comme Le Fa, il y a Stromae qui a aussi fait quelque
Alors
chose.
C'est quoi la nuance de bande originale inspirée du film? En fait, ce sont des musiques qui ne sont pas dans le film.
Qui sont pas forcément dans le film. Il y en a qu'on retrouve dans le film, et il y en a d'autres, mais c'est surtout inspiré. C'est des gens en fait qui ont pu voir le film ou à qui j'en ai parlé et qui a fait éveiller des choses, et ils ont donc composé des morceaux inspirés du film, tout simplement.
On peut écouter Aurel San ou pas?
Vous l'avez déjà?
Ouais.
Ah bah écoutons-le en
exclu. J'ai pas le droit?
Si, elle sort ce soir à minuit, on peut.
Un petit bout.
Allez.
Ça sort du Google Images pour vérifier que c'est bien le rappeur.
Mais on peut pas dessus, comme ça il pirate pas, non?
Non, non, mais personne va pirater.
Je
non,
sais
mais
pas.
C'est top.
Parce que on l'avait, puis après on a dit non, vous avez pas le droit. Donc
si, vous avez le droit. On en est très fiers, il est très fier de ce freestyle qui s'appelle le freestyle White Snake.
White Snake.
Voilà, exactement. Voilà.
Black Snake, la légende du serpent noir, ça sera la BO donc ce soir minuit en c'est sortie officielle.
Exactement.
Et on le passera pas avant. D'accord, on le passera pas avant.
Et au cinéma, donc le film, ça sera le 20 février. La bande originale de Vos Vies, Vos Goûts Musicaux, Carole Rocher, en fin des années 90, vous écoutiez. Ain't nothing but a G-thang, baby. Too low death, nigga, so we're crazy. Death row is the label that pays, man. Unfadable, so please don't try to fake this. But back to the lecture at hand. Vous écoutez Dr. Dre, vous voyez
la
dans
quel... Enfin, années 90, ouais. Ça faisait je sais pas combien d'années déjà depuis que c'était sorti que j'écoute. Et je l'écoute toujours, je sais pas, c'est une révélation pour moi, ça m'a
vous
porté.
Plonger donc dans ces années 90, vous voyez quoi, dans une chambre d'étudiante
Non, c'est pas du... non, je rigole avant qu'il rigole. Et
vous étiez
fin
une
des
enfant.
Années 90, bah écoutez, fin des années 90, j'ai eu ma fille, assez jeune, en 96, donc j'ai une grande fille de 22 ans. Et j'ai commencé ma vie d'adulte très tôt. Donc,
trop tôt?
Non, c'est comme ça, c'est chacun son... Donc, je m'en porte très bien aujourd'hui, ouais. Donc tout va bien. Et j'étais
comme
serveuse.
Vous disiez, avec une certaine émotion, je.
Oui, dès que je parle de ma fille, moi j'ai une émotion. Donc, je suis un peu détraquée.
Vous êtes une maman.
Mais voilà, c'est ça. Et j'ai beaucoup traîné à partir de 91 dans les soirées, toutes les soirées hip-hop.
Parisiennes.
Et ça m'a beaucoup porté, ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc,
ça vous rassurait, vous rencontriez des gens?
Ouais, je suis rentrée dans un mouvement dans lequel je me sentais chez moi et je me sentais respectée, vous voyez, malgré ce qu'on peut croire.
Ouais. Et ces univers-là. Ouais.
Voilà, je me sentais valorisée et cette musique, écoutez, je me suis éclatée comme toutes les petites jeunes.
Écoutez Boulot, il se passait quoi?
Écoutez Boulot, j'étais serveuse. Et d'ailleurs, fin 90, j'étais serveuse dans un restaurant qui s'appelait le Quai Savane, près de la rue Montorgueil. Et puis, c'était pas très loin des bains-douches. Donc, j'allais aux bains-douches faire la fête, puis dans d'autres soirées. J'aimais beaucoup la fête.
Marilyn vous laissez rentrer.
Ouais, mais je la connais par cœur. Même avec elle me gardait même mon petit chien.
Oh, c'est
pour
non.
vous dire. Ouais, exactement.
Celle qui a refusé tout Paris.
Pas moi. Moi, avec ma petite chérie. et Cathy Guetta, que j'ai connue. Enfin, voilà. Mais,
et Cathy puis, et David, qui travaillent. Et puis travaillent,
voilà. Ouais. Et j'écoutais. Et David et puis j'ai eu mes enfants après.
David ouais. était le DJ.
Exactement.
Et Cathy s'occupait du coin VIP du bar.
Ils ont toujours été absolument adorables. Moi, j'étais vraiment une petite jeune, quoi. Une toute petite. Qui sortaient déjà en boîte, et c'est vrai qu'ils ont toujours été ultra bienveillants avec moi. Et quand on se voit avec Cathy, d'ailleurs, il y a toujours un peu d'émotion parce qu'elle m'a connue, j'étais une petite fille.
Et fin des années 90, Carole, on vous retrouve pour la première fois à la télévision dans L'honneur de ma famille.
C'est ça.
De Rachid Bouchareb.
Pour mon premier film.
Avec Roche Dizem.
Ouais. Avec Roche Di.
Et c'était sur Arte. Et après, très rapidement, à peu près dans la même période, votre premier rôle au cinéma.
C'est ça, un frère de Sylvie Verrette.
Qui tisse vraiment un lien fort avec Sylvie Verrette, parce que vous ne vous êtes jamais quittée, en fait.
Mais jamais, c'est-à-dire que depuis un frère...
Ouais.
En fait, moi, je l'ai rencontrée, elle m'a fait venir au casting, enfin, je l'ai rencontrée pour le casting d'un frère, pardon. Et on s'est assis, c'était dans le 6e arrondissement de Paris. Moi, j'étais vraiment... pas du tout carriériste, enfin, je pouvais même pas me permettre d'imaginer que j'allais être comédienne, donc je rencontre comme ça, je rencontre des chances, on va dire. Et je me assise en face d'elle, et vraiment, c'est-à-dire que j'ai oublié, sur le moment, j'ai complètement oublié que j'étais là pour un rôle, et pour jouer dans un film, j'avais juste envie que ce soit ma copine.
Sympa.
Non mais vraiment, ouais. J'ai eu un coup de foudre amical, et c'est vrai qu'on a fait un frère, et Thomas est là pour le témoigner, je ne passe pas... 3 jours sans l'avoir au téléphone ou sans boire un café, c'est une grande, grande, grande histoire.
Une vraie, ouais, une vraie amitié. Quant à vous, Thomas Ndjijol, vous écoutiez, comme par hasard, Dr. Dre aussi.
Ouais.
J'ai l'impression de faire les amours à la place de Bruno Guillon. Donc vous aimez la même musique.
Amoureusement, j'adorerais faire cette émission.
Oui. Oui. Je l'appelais Bruno.
Ah, mais...
Bah ouais, non, Dr. Dre. Moi,
pas
c'est. Je fais peu la bouclée quand je parle.
Ah, ils sont vraiment amoureux.
J'essaye de parler de ma vie. Tu as parlé pendant 15 plombes, oui, émotions, tout ça. Je peux parler de mes émotions. Oui, oui, bah, ouais, bah maintenant c'est bon.
Faisiez quoi,
alors,
faisiez
oui, quoi moi, j'écoutais Dr. Dre.
Vous faisiez quoi surtout fin des années 90
Fin 90, j'étais.
Étudiant.
J'étais encore étudiant. J'étais
en quoi
aussi. Je pense que j'étais en. Comment dire en sciences de l'éducation. Je me suis beaucoup cherché, moi, à l'université.
Vous vouliez être instituteur, hein, c'est ça ?
C'est ça. Mais avant, on va en revenir encore au basket. Moi, j'ai fait STAPS au début.
Mmh. Ouais, prof de gym.
Voilà,
ouais.
Parce que je voulais rester en survêt de basket. Voilà, c'est le mec qui fout sa carrière scolaire en l'air. J'ai dit, ouais, j'ai pas envie de mettre des jeans et tout. Et je me suis beaucoup ennuyé. Ensuite, j'étais en langue étrangère. Je me suis ennuyé. J'ai arrêté la fac. J'ai travaillé en tant qu'éducateur. J'ai repris mes études. Et c'est là où j'ai voulu être instit parce que j'étais passionné à travailler avec les enfants. Ouais. Ça a été une révélation dans ma vie. Je voulais passer mon concours d'instit et tout. En parallèle, c'est vrai que je faisais beaucoup de théâtre. Et j'ai choisi un moment de donner la chance dans la comédie parce que je me disais à l'âge que j'ai, essaye. Et puis si ça marche pas, tu pourras toujours être instit. Et bah jusqu'à aujourd'hui, mon choix, je le regrette pas, mais j'étais passionné par le métier d'instit et le rapport avec les enfants, c'était top.
Et cette chance-là de se lancer dans une autre carrière, il y a une femme quand même qui a été là pour vous aider. Vous parlez de votre grand-mère,
ouais,
camerounaise.
Fais ça, parce que ma grand-mère, ah, c'est chiant, je suis allé, mais bon.
Non,
mais c'est vrai. Mais
on va le couper, on le coupera au montage, on mettra un bonus de l'émission.
C'est parce que ma grand-mère, elle est partie il n'y a pas si longtemps. Mais...
Pardon.
Non, mais c'est pas un souci. Mais c'est vrai qu'elle m'a... Elle m'a encouragé en fait. Elle m'a dit fais ce que tu veux parce que pour mon père et ma mère c'était.
Mais les métiers artistiques dans la famille c'était
pas. C'était pas terrible. Ouais. Mais c'est vrai que ma grand-mère elle m'a dit je m'en fous, fais ce que tu veux. Elle m'a fait un bisou et puis.
Mais à quel point c'était elle qui pouvait prendre la décision au nom de la famille
entière ? C'était pas. En fait c'était pas une question de décision. C'était une question de confiance. De confiance, c'est-à-dire que de moi-même, j'aurais pas eu la force de me dire va contre tout ce que les gens ils me disent de faire. Mais elle en fait elle m'a. Insuffler cette confiance et force.
Ouais, voilà. Elle a dit,
bah,
ton père, je m'en occupe, quoi.
Exactement.
Vas-y,
bah, c'est la seule personne où j'ai vu mon père baisser la tête, en fait. Quand sa mère lui parlait en dialecte et tout, elle levait la main, je voyais mon père qui baissait la tête, bah, comme nous, en fait.
Ouais, ouais.
Donc, du coup, c'était.
On est des enfants toute notre vie, ouais.
Exactement.
C'est sûr. Vous écoutiez en 2004-2005 Carole Rocher.
Elle est prête.
Là, vous avez cité Assia avec Elle est à toi, ça aurait pu être Diaps aussi.
Oui, bah en fait, j'ai cité ça parce que c'est vrai qu'en 2003-2004, j'ai réalisé des documentaires et j'avais réalisé un documentaire sur toutes les filles. Alors, il est un peu raté, hein. Donc voilà.
For the
ladies. Mais c'est vrai que c'était un produit, on avait monté une boîte de prod et mais il est un peu raté, mais bon, c'est très mignon. Et j'avais donc suivi Diams au tout début, on avait passé une semaine ensemble, même plus d'ailleurs, Assia. Et c'est vrai que j'adorais cette chanson. Je l'ai rencontrée, Assia, et moi je suis une maman, je suis une jeune fille qui a eu un enfant seule. Et cette chanson, bah, et voilà, comme je l'ai écoutée, ça m'a fait pleurer, et ça me faisait, c'était un truc, une chanson pour moi et ma fille, pour moi. Et j'étais, quand je l'ai rencontrée et que je l'ai filmée, bah voilà, donc ça représente un peu ces années-là. Voilà, c'est mignon.
C'est touchant. Ouais, ouais. Non, c'est touchant, mais ça fait partie encore une fois de votre histoire.
Et
de,
exactement. De votre et c'est vie. Vrai que cette chanson, ouais. elle est simple. Après, il y a. Mais moi, j'ai beaucoup d'affection pour cette chanson et du coup, j'ai eu énormément d'affection pour Assia que j'ai connue, avec qui on a un peu travaillé sur le documentaire.
Ah oui, personnellement, d'accord.
Voilà.
Et puis vous avez réalisé des clips aussi de musique, vous avez joué dans des clips. Enfin, j'ai l'impression que l'univers musical, il est toujours là.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Vous avez fait vos débuts dans un clip de Princesse Erika avec Romain Duris.
C'est vrai, je me suis jamais dit, mais c'est vrai que.
C'était lequel de Princesse Erika, faut que je travaille ou...
C'est ça, exactement. Ouais. En fait, c'est vraiment grâce à ce clip, donc grâce à Olivier Dahan et Gigi Lepage qui a fait les costumes de notre film d'ailleurs. Je suis là aujourd'hui, hein, parce que s'ils m'avaient pas pris dans leur clip, je serais pas comédienne, je pense.
Dans ces années 2004-2005, Thomas Njijol, vous écoutiez Renaud.
Être né sous le signe de l'Hexagone.
Chanson engagée.
C'est pas ce qu'on fait mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône.
Ouais.
Je parierais pas qu'il est allemand.
Et c'est votre premier spectacle pour vous, Thomas.
Ouais.
Bienvenue.
C'est ça.
Que vous jouez à l'époque dans une petite salle à Paris, le Mot Loco.
Absolument. Mais en fait, c'était une période où en fait, j'étais très curieux. En fait, c'était définitivement la période où je m'étais émancipé de plein de choses de ma jeunesse, de la maison Alfort et tout, sans les renier. Hein, mais je découvrais plein d'autres choses. Et j'étais très. Je suis pas un gros lecteur, mais j'écoute beaucoup de musique. Et j'étais très sur le texte, en fait. Donc j'écoutais. J'ai redécouvert Renaud, j'écoutais Eddie Mitchell, j'écoutais plein de choses qui me parlaient, m'inspiraient, et puis des rappeurs comme Kerry James aussi.
Vous écoutez tous les deux, tout n'a pas été une route tracée, bien goudronnée, sans embûche. Et qu'est-ce qui a fait que dans votre caractère, vous n'avez rien lâché, vous croyez en vous?
Moi, je pense que c'est pas une envie de réussir, c'est une espèce de, je sais pas comment dire,
Il y a plein d'occasions de baisser les bras, donc pourquoi ne pas les baisser?
En fait, il y a une détermination qui est due peut-être aussi à notre milieu sociologique, qui fait que, comme je dis, on a peut-être un ADN où les coups, on sait les recevoir, en fait. Donc c'est
la survie, quoi.
Ouais. Après, je veux pas jouer non plus le Rambo. Genre, c'était dur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que. Non, mais il y a le côté un peu perdu d'avance, en fait.
C'était pas signé non plus, quoi.
Non, c'était pas signé. On est les enfants de personne. On n'est pas des enfants de la balle. Mais quelque part, voilà, moi, les coups, ça me fait rien, en fait. Mm. Pas que ça me fait rien, mais ça me renforce. J'ai toujours le côté. J'ai la mentalité d'un sportif. Moi, j'adorais qu'on me prenne de haut sur un terrain de foot, par exemple. Je dis, plus tu me prends haut, plus tu vas voir ce que je vais te faire. Même si je gagne pas, au pire, je te ferai une bonne faute et tu sortiras.
C'est moche, ça.
Ouais, des fois, c'était une pourriture.
Et vous, Carole, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez jamais abandonné?
Non, moi, très honnêtement, j'y ai beaucoup réfléchi parce que c'est vrai que j'aurais pu abandonner plein de fois. Et je pense que ça paraît très cliché de dire ça, mais je vous assure que c'est la vérité. Je pense que c'est vraiment d'avoir eu des enfants très tôt.
Ouais.
Mais le fait d'avoir eu ma fille.
Et de devoir se battre pour eux?
Ouais, se battre. Ouais. Et puis, en fait, c'est le fait d'aimer un enfant et d'être aimé par cet enfant, ça donne une confiance en soi. Et sans cette confiance en soi, je crois que j'aurais pas eu le courage de me présenter face à certaines personnes. Et là, quand t'as un petit bébé, tu lui tiens la promesse qu'il va essayer de se passer des belles choses dans sa vie et que. Et à la fin, c'est pour elle, quoi. Donc vraiment, je c'est pour ça que je dis toujours que je suis ultra reconnaissant envers mes enfants et les quatre. Parce que chacune, dans chaque étape de ma vie, elle me donne une force et surtout une assurance. Et elle te calme, elles te font aller dans le bon sens. Et je pense qu'après, il y a des coups qui auraient pu me m'enlever de la force,
c'est joli de dire que ce sont les enfants qui rendent plus fort, alors que on inverse souvent les rôles en disant c'est à nous de rendre plus fort nos enfants, mais en fait c'est eux qui vous font grandir
complètement.
Bien sûr, moi je pense que on doit beaucoup de reconnaissance, on se permet de faire des enfants comme ça et
on se permet
mais c'est vrai, j'ai envie de le dire comme ça, c'est vrai qu'à un moment c'est super, on devient maman, c'est beau, ça remplit plein d'ego et puis mais à un moment on a un devoir envers eux, c'est d'être très reconnaissant parce qu'ils dépendent de nous, quoi. Le pouvoir qu'ont les adultes sur les enfants, c'est c'est catastrophique si on en abuse.
On va reparler du sujet. Non, c'est très joli, non.
J'ai cassé l'ambiance.
Pas du tout.
C'est beau de dire
c'est touchant, non,
que la force vient des enfants.
Mais non, mais
un jour de Saint-Valentin, j'ai envie de vous dire, Carole, que ça va donner des idées ce soir.
Il faut, allons-y. Je ferai la nounou.
Et je pense, moi le premier, que beaucoup de mamans ou de papas vous entendant se reconnaîtront dans ces propos-là sans jamais l'avoir totalement reconnu ou avoué, parce qu'il y a une espèce de pudeur aussi.
Bien sûr, et c'est pour ça que, enfin, moi je pourrais parler de ça pendant des heures. Mais c'est vrai que, et c'est pour ça qu'il ne faut pas que les parents ils hésitent à... Ils complexent à être honnêtes. On peut être honnête vis-à-vis de nos enfants, leur montrer, dire bah là, tu vois, j'assure pas, là, ça me stresse, là, ça m'énerve, là, je ne sais pas comment faire. Enfin, voilà, parce que parce que tous les enfants, ils comprennent, en fait.
Et surtout, expliquer, justement, puisqu'on est avec un super-héros, expliquer aux enfants que on n'est pas forcément le papa le plus fort du monde, qu'on n'a pas forcément toujours raison,
qu'il
y a certains mots, on ne sait pas comment ça s'écrit, on va prendre
savoir
le dictionnaire.
S'excuser enfin, voilà, auprès de ses enfants. Enfin, savoir s'excuser auprès de ses enfants, ouais. je trouve que c'est important. Et puis finalement, pour avoir testé le truc, puisque on en a deux, une de 22 et deux de 17, et ben en fait, ça fait des enfants et des personnes qui savent s'excuser et qui savent reconnaître leurs torts, parce que voilà, il y a des échanges, quoi.
Thomas Ndjijol et Carole Rocher, vous signez donc Black Snake, la légende du serpent noir, avec en toile de fond ce personnage d'Edouard Baird et de la France-Afrique qu'on a demandé à Xavier Arel. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Merci de venir à ce micro. Vous êtes journaliste indépendant, vous vous êtes intéressé à la France-Afrique en publiant Afrique pillage à huis clos, comment une poignée d'initiés...
Vous avez quand même touché pas mal de pognon à l'époque.
On m'a glissé des enveloppes.
Comment...
Voilà. Ah, c'est pas des valises.
Comment une poignée d'initiés siphonne le pétrole africain chez Fayard en 2006 et tout dernièrement une bande dessinée avec le dessinateur Julien Solé aux éditions Glénat, l'argent fou de la France-Afrique.
Faire des biens mal acquis.
Derrière la comédie et les blagues, on retrouve donc ce sujet de France-Afrique. Comment le résumer? C'est le passé des colons de la France qui résonne encore dans la tête et dans les règles politiques entre les pays?
Oui, enfin la France-Afrique, c'est vraiment l'héritage de la décolonisation à la française. C'est-à-dire que la plupart des colonies en Afrique, que ce soit les colonies britanniques ou portugaises, eh bien, ont obtenu leur indépendance les armes à la main. Dans le cas de l'Afrique francophone, c'est pas le cas. C'est le général de Gaulle qui a donné l'indépendance à 14 pays d'un seul coup en 1960. Résultat, il a placé des régimes amis à la tête de ces pays pour protéger les intérêts français, notamment...
Des intérêts personnels?
Et pour des intérêts personnels, non, pas forcément. À ce moment-là, il y avait vraiment l'idée de garder un précaré français en Afrique francophone, et puis surtout de mettre la main sur le pétrole, le minerai, l'uranium, et donc de pouvoir exploiter ces ressources naturelles avec des régimes amis qui vous accordaient des concessions. Alors, et des conditions très avantageuses.
C'est exploiter au sens péjoratif du terme, parce que y a exploiter, faire profiter tout le monde de richesses naturelles, et le sentiment et que quand même ces richesses naturelles qui auraient pu enrichir les pays qui étaient propriétaires de ces terres, de la surface jusqu'au centre de la planète, n'en ont pas profité. C'est des méthodes qui résonnaient comme de l'esclavagisme encore.
De l'esclavagisme, peut-être pas, mais effectivement, c'est le grand paradoxe de ces pays pétroliers qui sont des pays bien souvent
pauvres,
très peuplés, le Gabon, le Congo, le Cameroun ou le Tchad, qui sont des pays extrêmement riches en pétrole. Et quand vous allez sur place, vous vous rendez compte que la situation est absolument calamiteuse. Il n'y a quasiment pas de route. Vous avez les mêmes régimes en place depuis des décennies qui sont là et qui vivent effectivement du pétrole et qui se maintiennent au pouvoir grâce au pétrole et qui se maintiennent au pouvoir parce
que
l'argent
n'est pas allé au pays, mais à deux, trois décideurs, deux, trois.
Tout à fait. Il y a énormément d'argent qui remonte dans les paradis fiscaux. Et pendant des décennies, comme Paris avait, la France avait une obsession, c'était son indépendance énergétique, que ce soit le pétrole ou que ce soit l'uranium pour faire du nucléaire, de l'électricité nucléaire, on a maintenu en place des régimes amis qui peu à peu se sont autonomisés, mais qui sont des régimes qui se maintiennent là depuis 40 ans. À chaque fois qu'il y a des élections, c'est truqué. Et à chaque fois, Paris bénit ces élections et laisse en place des régimes qui
sont indépendables. Donc ça existe encore, ça continue. continue encore aujourd'hui.
Ah oui, ça continue, bien sûr, ça continue. À chaque fois, enfin, si vous voulez, à chaque fois, la France-Afrique, c'est pile et face, c'est-à-dire, et c'est très bien résumé dans le début du film, hein. Il y a cette scène absolument géniale où Edouard Baird, donc, qui est un peu le représentant de l'Élysée, arrive dans le bureau du président Ezekias, alors, papa, donc, moi, je vois très bien Omar Bongo, qui a dû inspirer ouais. le personnage. Et, donc, alors, bonjour, comment vas-tu, meilleur ami de la France? Et puis, tout de suite, Edouard Baird, donc, pose la question au président, mais vous savez que la France n'a qu'une mission, accompagner votre pays vers la démocratie.
Et ils éclatent de rire.
Et là, non,
voilà. Il y a un blanc.
Un grand blanc. Ouais. Le président Ezekias a l'air un peu furieux. Qu'est-ce qu'il vient me chercher des poux? Et puis, d'un seul coup, tous les deux éclatent de rire. et donc là, ça révèle toute la duplicité ouais. de la politique française en Afrique. C'est-à-dire que côté face, vous expliquez que, effectivement, on veut aller vers la démocratie, on veut aider ces pays. Et puis, côté pile, vous soutenez à bout de bras des régimes indéfendables, parfois même avec l'armée.
Sankara, ça me fait penser à Sankara. Vous vous souvenez de Sankara, qui a été, vous pouvez dire deux mots sur lui, parce qu'il était un très grand homme africain.
Oui. Alors c'est pas la même Afrique là. C'est ouais. effectivement là le cœur de la France-Afrique, c'est l'Afrique centrale, c'est ouais. l'Afrique extrêmement riche en pétrole et en uranium, et c'est ce qui fait que ces pays restent coincés avec des régimes absolument.
Alors ce qui est fou, et pardon, ça sera ma dernière question. Ce qui est fou, c'est que à la fois la France et les pays occidentaux exploitent les richesses de toute l'Afrique sans faire profiter les Africains de leurs propres richesses. Et maintenant, l'Afrique, ça devient la poubelle. C'est là où on envoie les cigarettes pourries, les voitures diesel dont on ne veut plus. On se débarrasse de tout en renvoyant tout ça à l'Afrique qui devient un continent extrêmement pollué. Mais parce que
oui, alors ça tient plus au fait que l'Afrique reste un continent assez pauvre et donc on se débarrasse à bas prix. On écoule à bas prix des marchandises un peu frelatées. Alors c'est bon pour les cigarettes, c'est valable ouais. aussi pour le pétrole. Il y a une qualité africaine et donc c'est un pétrole qui serait invendable en Europe ou ailleurs et bien qu'on va écouler sur les marchés africains.
L'affaire des biens mal acquis qui profite à certaines personnes, l'argent fou de la France-Afrique, cette bande dessinée co-signée par Xavier Harel et Julien Solier pour les dessins. Merci d'être venu nous parler à ce micro. Tanguy Pastureau, l'humour, c'est comme l'amour, c'est dur.
Oui, à faire absolument, Nagui. D'autant plus qu'en 2019, chaque vanne suscite des réactions sur les réseaux sociaux. Donc c'est affreux. Je le dis aux jeunes qui voudraient se lancer, petit, faites la chaudronnerie. Il y a moins de concurrence et au moins à la fin, tu as un chaudron. Hein, l'humour à la fin, tu as une feuille à 4 froissées. C'est nul.
Marina Rollman, Tanguy Pastureau, Daniel Morin,
bonjour Marina.
Albert Algou bonjour. Et nos invités Carole Rocher et Thomas Dido. Avec ce film Black Snake, la légende du serpent noir, il fallait qu'il y ait un titre et une baseline, ça fait encore plus film
général,
de
super-héros. Ouais,
et la baseline, ça pouvait pas être juste la légende du serpent.
Non, c'est un peu dans les codes et puis c'était aussi pour donner aussi un titre un peu français aussi ouais. parce que Black Snake, c'était un peu vite quand même, et puis il fallait mettre un petit une autre touche française, tout simplement.
Et alors justement, les effets spéciaux, est-ce que vous vous êtes posé la question, vous parliez tout à l'heure, Carole Rocher, du budget pour faire un film, et encore plus un film avec un super héros. Il y avait des choses qui vous étaient interdites parce que
oui,
ça coûte trop cher à faire.
Oui, voilà. Et puis de toute façon, c'était pas l'ADN du film. Ouais. Enfin, on n'était pas là pour faire des grandes explosions, enfin des grands trucs.
Mais je trouve que au contraire, c'est ça qui est fort.
Oui.
Voilà, c'est qu'il n'y en est pas.
Et il y a un peu de cascade, mais tout ça, c'est une comédie, c'est pas un film d'action, donc voilà.
Avec quand même une toile de fond de vérité, de sincérité, sûr, ouais. de les rapports entre tous les deux aussi, parce que il faut aussi s'appuyer sur des valeurs.
Le truc, c'est que.
Qu'est-ce qui vous a guidé au début d'ailleurs en termes de valeurs? Vous vouliez donner quoi comme message?
C'est compliqué. Je dirais plus à l'inverse. On avait tellement l'envie de vouloir s'amuser, mais en même temps, pour qu'on tienne sur un film, parce qu'on fait du cinéma, il faut quand même y insuffler des choses, quoi, des choses qui font que on voit un film et pas un sketch ou une blague qui s'étire et qui est interminable.
Donc il faut une intrigue.
Il faut une intrigue, il faut une histoire.
Des sous-intrigues, il faut des rebondissements. C'est ça.
Exactement. Et puis c'est vrai que comme on l'a cité sans
donc
vouloir.
C'est très codifié en fait.
Pas tant que ça, pas tant que ça, mais c'est comme l'avait cité de toute façon notre ami qui est venu présenter son livre tout à l'heure. Excusez-moi, j'ai oublié son nom.
Xavier Arel.
Absolument. Bah, il y avait un sous-texte qui était tellement sulfureux de placer ce film à cette époque-là qu'on avait déjà un cadre très large, quoi. Après, derrière, il fallait s'amuser quand même, quoi. Voilà.
Et ça marche. Et
merci.
Et
ça marche. Ouais, ça marche vraiment, mais c'est dingue. Et voir juste ce super-héros en 4L, moi, tout de suite, il n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. Voilà.
Ça réhabilite la 4L.
Déjà, la 4L, ça va.
Et une des scènes les plus drôles, c'est avec Carole.
Ouais.
Il y a une scène de drague.
Ah non, mais...
Oh là 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 là, avec un monsieur qui soigne le corps...
Ah oui.
Et qui déclare sa flamme. Bon, j'en dis pas plus avec moi, mais c'est une des scènes les plus drôles.
Ouais, mais tu vois, même moi qui ai vu le film, j'ai envie là d'un coup.
Ouais. Tu veux l'huile de l'eau.
Black Snake, la légende du serpent noir au cinéma la semaine prochaine. Ça sera mercredi 20. Carole Rocher et Thomas Gijol sont nos invités. Tout de suite, Tanguy Passion est là. Moi, je croyais que c'était simple, Tanguy Pastureau, le métier d'humoriste.
Bah oui, c'est ce que je me disais aussi en choisissant cette profession, la seule qui à la fois rapproche de Pierre Desproges et des Baudins. Sur le papier, c'est le métier idéal. On fait des blagues, on se retrouve face à vous, Nagui. Comme quand on regarde la télé, sauf que là, on n'est pas en slip avec un bolino. Et même si, pour des raisons qui n'appartiennent qu'à moi, j'aurais préféré chaque midi me retrouver face à une grille de chauvin, bon bah, c'est pas mal. Ouais. Et puis, on est adulé. Dans les salles, les gens se lèvent. Le problème, pour l'instant, pour moi, c'est qu'ils se lèvent au milieu du spectacle. Mais j'ai l'espoir de les garder jusqu'à la fin contre des tickets resto, une photo de Daniel Morin ou une photo de l'ours de Jean-Jacques Hano signée Daniel Morin. Tout le monde n'y verra que du feu. Alors je plaisante bien sûr, hein, je rencontre un succès tout à fait insolent, hein, le même qu'Hitler en 1933, mais avec un objectif moins destructeur. Donc être humoriste, c'est cool et ça permet de s'extirper de sa condition sociale. Regardez Marina Rollman, cette courageuse Suisse qui aurait pu facilement tomber dans l'industrie du luxe, cartonner dans une banque privée où elle reproposait des Kinder Bueno en or à des tennismen français venus avec des mallettes. Ben non, elle a choisi de faire humoriste et de vivre à Paris dans un F2 sans porte avec des rats. Une fois la semaine, on lui fait signer son contrat Radio France. À chaque fois, elle dit « Quoi, c'est tout ? Pitié, ajoutez un zéro même après la virgule. Tant pis, moi aussi j'ai envie de bouffer du boulgour bio. » À Naturalia, quand sa carte ne passe pas, c'est un barbu en fuite de lin qui ressemble à Christophe Maé en fin de vie qui lui prête de l'argent. C'est ça, humoriste. Tu es tout, tu peux devenir rien. L'ascenseur social met dans le câble au répété. Et puis, être humoriste, c'est devenu compliqué parce qu'on est obligé de se demander comment les gens vont prendre ce qu'on dit. Ça peut être violent. Un sketch de Gad Elmaleh sur les meubles Ikea impossibles à monter, qu'il aura écrit sur son carnet tout au fond d'un café théâtre dissimulé sous une perruque. Bah, si vous êtes fan d'Ikea, vous pouvez mal le prendre et vous aurez la haine contre Gad Elmaleh. Mais parce que les gens n'ont plus d'humour, le public est devenu con. Il ne capte rien et susceptible avec ça. À chaque fois que moi j'œuvre, je reçois au moins 20 messages d'auditeurs de ma chronique à 12h10, donc de chômeurs. Hein. Il y a toujours quelqu'un de pas content. Je fais un truc sur l'antisémitisme, paf, les gens me disent « Et les églises saccagées alors ? Bonjour, l'indignation sélective. Hein, » ce qui signifie « Bah, tu serais pas pote avec 2-3 juifs, toi ?» Alors que non, bien sûr. Hein, c'est professionnel. J'ai lu sur un mur qui contrôlait les médias. Le lendemain, vous parlez des églises, on vous dit « L'islamophobie, pas un mot. » Bref, c'est comme un album de Camille Saint-Saëns quand on aime le grunge. C'est sans fin. Et pire hier, Marlène Coulon-Gulli, sociologue réputée, déclarait à l'AFP, je cite « L'humour a toujours été mobilisé pour asseoir une domination. Les femmes, les minorités, les gays, on ne rit pas avec, on rit d'eux. » Et ça m'a brisé. J'ai réalisé, alors que je pensais être un babtou fragile, prostré au pied du lave-vaisselle en écoutant Radiohead, qu'en fait j'étais un mâle dominant, un bonobo déjanté.
Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Je trouve ça super, moi, un bonobo.
Oui, mais enfin, Nagui, ça me fait d'autant plus plaisir que vous me trouviez super que c'est spontané et pas écrit par moi-même sur votre feuille. Eh ben, madame Coulon-Gulli a raison, on rit d'eux, pas avec. Quand je fais une blague sur les Roms, je ne ris pas avec les Roms. Ils ne participent pas à la blague puisqu'ils n'ont pas de main pour allumer le poste de radio. Je me moque d'eux. Or, ils sont en situation de fragilité sociale, donc je suis inhumain. Je devrais me moquer uniquement des puissants, d'Arnaud Lagardère. Ah bah non, lui aussi est en situation de fragilité sociale, c'est le propriétaire d'Europe 1, le pauvre. Océan, qui est humoriste, dit la même chose. Il faut rire ensemble et pas les uns contre les autres. Parce que c'est vrai que l'humoriste divise. En moquant de Ribéry récemment, bah je me suis moqué de l'ensemble des gens qui mangent des entrecôtes en or. Or, c'est une communauté qu'il faut pas se mettre à dos. Parce qu'à Noël, c'est le genre de personne à vous offrir un diadème recouvert de sauce barbecue. Prenez Jean-Marie Bigard. Chez Hanouna l'autre jour, il a fait une blague. Hein, pas celle des 12 cochons et du curé, pas celle non plus des hémorroïdes de la caissière du Leclerc. Une
peine plus hard. 200 signalements au CSA, les internautes outrés. Blague décrivant un viol, de manière comique. Un bigard n'appelle pas au viol, si ce n'est celui de la boîte aux lettres de la Caisse des impôts. Et ben là encore, Marlène Coulon, sociologue, dit qu'il s'agit de conforter l'homosocialité masculine. Le fait que nous, les mecs, grillons pour mieux rester entre nous. Et c'est vrai que des blagues sur un homme qui se fait prendre contre un mur par une femme munie d'une kit bowling, ou d'un saucisson s'il en est en Corse, bah il y en a pas. Hein, les blagues sur les femmes, c'est soit elles sont battues, soit elles sont sodomisées, soit elles sont totalement cons. Hein, je crois pas qu'il y ait l'inverse. On entend toujours celle de la prostituée et du castor, jamais celle du gigolo et de la marmotte, alors qu'elle est super. Hein. Ça se passe en Suisse, la marmotte, enfin voilà, j'ai déjà assez blagué sur la Suisse, on va croire que je suis suissophobe. Hein. Mais pas du tout, hein. Autant les Italiens je les aime pas, autant les Suisses ne me posent pas de problème. Non mais, les gens qui se cachent derrière le LOL sur internet, ce sont toujours des hommes qui traitent les femmes de catins soi-disant pour rire. Moi jamais j'ai reçu de message d'une femme disant t'as mis ton petit jean moulant mon chaudard, tu la veux ta promotion LOL. Non, hein, pourtant j'aurais adoré. Bref, je réalise que je devrais m'en foutre de tout ça, mais qu'en même temps j'ai envie de veiller à pas écraser les autres. Donc humoriste, c'est compliqué, faites autre chose les jeunes.
Merci Tanguy Patio. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Justement, humoriste, c'est compliqué. Faire de l'humour, c'est compliqué. Faire de l'humour en Afrique, sur les Noirs, ouais, sur la taille, sur les enfants, sur la politique. Est-ce qu'il y a, il y avait une espèce de garde-fou? Est-ce qu'il y a des moments où vous dites « ça on peut, ça on peut pas » ou alors vous aviez une liberté totale et vous moquiez du « qu'en dira-t-on ? »
Je me suis jamais posé aucune question, que ce soit sur scène et encore moins au cinéma, parce que le cinéma, tu peux rebondir comme tu veux. C'est-à-dire, c'est sur scène que tu prends les plus gros risques, parce que c'est de l'art vivant, quoi. Si tu dis une connerie sur scène, tu l'as dit. Au cinéma, tu peux dire une connerie, elle est coupée au montage, donc tout va bien. Mais non, non, je me suis jamais posé aucune question, que ce soit...
Non, parce qu'il y a des racistes dans le film, mais ils sont noirs.
Oui, mais vous n'avez pas l'exclusivité, vous les blancs, du racisme.
Vous n'avez pas déjà, le monopole du racisme,
exactement,
monsieur.
Vous avez déjà beaucoup de choses, donc si on peut l'être de temps en temps, vous n'allez pas nous faire chier. Mais non, la bêtise est universelle, il n'y a pas à remettre ça en question. Et en tout cas, non, sur tout ce qui est toute la question de l'humour, les gens ne se posent jamais la vraie question du fond, c'est le fond.
Ouais.
Pourquoi tu fais de l'humour, c'est pour régler
c'est
les
quoi,
comptes.
C'est quoi la vanne?
Non, c'est même pas c'est ce qu'on... Tu peux rater ta vanne, c'est pas grave de rater, j'en ai raté, j'en raterai encore, c'est pas le problème, c'est le pourquoi. Est-ce que tu as des comptes à régler, en fait, à travers le thème?
Les trois quarts des gens répondront à la question pourquoi cette vanne part, c'est pour faire rire.
Oui, ce que je veux dire, c'est le fond. Quand on aborde un thème, est-ce qu'on a envie de rire? Est-ce qu'on a envie que ce soit juste chaleureux? Ou est-ce qu'on veut régler un compte? Parce qu'en fait, les mauvaises blagues sont souvent dues à quelqu'un qui veut régler un compte, en fait, inconsciemment, ou qui a un problème avec eux. Si t'as un problème avec les femmes, tu vas être dans un humour un peu graveleux, homophobe, ou je sais pas trop, enfin, misogyne, et je ne sais trop quoi, mais à un moment donné, on parle jamais ça paraît un peu con, mais du cœur, en fait. Moi, je sais que personnellement, et je parlerai que pour mon cas, quand je monte sur scène ou que je fais un film, j'ai pas de compte à régler. Donc moi, quand on me met face à des trucs, je suis très à l'aise, en fait.
C'est comme Black Snake, sa force ne peut être utilisable que s'il est guidé par son cœur.
Absolument.
Dans le film, c'est aussi ce message de sincérité. Ce que j'ai trouvé beau, c'est que comme dans tous les personnages de super-héros, quand on pense au Marvel et à toutes les grosses productions américaines, c'est toujours rempli de clichés, ça. C'est-à-dire qu'on a le grand défenseur des États-Unis qui est hyper viril, qui est bon. Là, notre Black Snake, on l'a dit tout à l'heure, il adore la sape, il est un peu obsédé par les filles, il est même un peu nonchalant sur des choses. Donc, comment on prend ces clichés-là et comment est-ce qu'on les détruit et ensuite on les retravaille? Et puis, la situation initiale, c'est quand même ce Clotaire qui revient au pays. Mmh. Donc ça, on n'en a pas encore parlé, c'est pas anodin. C'est-à-dire que celui qui est devenu chirurgien, qui a réussi, qui est qui s'est intégré entre guillemets ailleurs, revient ailleurs, revient dans ce pays où finalement il est regardé un peu aussi de travers.
Mmh, complètement.
Parce qu'il est différent.
Complètement. Bah il y a la question de l'identité qui se pose, et puis il y a aussi il y a surtout ça, quoi, de savoir d'où on vient, et puis ça touche à la personne, dans le sens où ce pauvre garçon, bon, lui, il croit être trouvé dans une poubelle, mais bon, c'est encore autre chose, mais c'est-à-dire que ça
pose... C'est peut-être vrai.
C'est peut-être vrai, on le saura le 20 février. Mais c'est surtout que ça touche à toujours cette même problématique, c'est l'identité. Quand on sait, quand on connaît ses racines, on évolue toujours mieux dans une société. Quand on sait pas trop d'où on vient, on est perdu, on se raccroche à des choses diverses et variées qui peuvent des fois nous perdre.
Mm-hmm. En tout cas, un super-héros issu de la diversité, on le voit, Daniel Morin.
Qu'est-ce qu'on voit?
Black Snake, c'est encore rare et encore plus que jamais. Le divertissement doit être un miroir de la société. Le vivre ensemble, évidemment, le respect des différences, tout ça, c'est primordial. Le cinéma doit participer à ce combat. Et c'est ce que réussit, ça...
J'ai failli y passer. Oh, c'est qu'il a raison, le petit Bazané. Il sera peut-être le premier animateur du 11h à voir ma peau. Quand je pense que j'ai résisté à l'ultra-violence de Stéphane Bern. Que j'ai survécu aux séances de méditation avec finition de Frédéric Lopez. Quand je pense que j'ai survécu à un environnement irrespirable, composé et surtout pollué à 95% par des particules de poils toxiques d'André Manoukian. Mais là, c'est trop. C'est too much. Je vais calancher. Je suis à bout de force. Mes organes s'effritent. Mes testicules s'effondrent. Mon anus se referme. Tout ça, le jour de la Saint-Valentin, c'est ignoble. Déjà qu'hier, je me sentais pas bien quand j'ai appris qu'Alain Juppé quittait la mairie de Bordeaux. Mais aujourd'hui, c'est le coup de grâce. Pour abréger mes souffrances, je sais pas, je vais mettre fin à mes jours en allant m'enfermer dans un petit studio en écoutant à fond le best-of de Christophe Maé. Normalement, en 2 heures, c'est plié, mes oreilles vont fondre et mon cœur va imploser. Ah puis non, il n'y a pas de raison que je jette l'éponge. J'ai une responsabilité. Je veux pas laisser les auditeurs du 11h, midi et demi sans protection à la merci de vos niaiseries glyphotasées. Non. Je vais me battre, monsieur. Monsieur Guy, je vais me battre, oui. Leïla, file-moi ton sextoy étoile de ninja. Je lui tranche la gorge au marcassin d'Alexandrie. Mais vous voyez donc pas que vous dégoûtez tout l'espace francophone mondial avec vos paroles niaiseuses, monsieur Guy, non? Et qu'il faut des héros, des super-héros de toutes les couleurs, ni. Et que la société doit être un miroir, nanana. Et que le vivre ensemble et le respect des différences, nanana. Vous avez de la chance ce soir la Saint-Valentin, bordel! Sinon, je vous coupais le zizi, ici, et maintenant, j'en faisais un gnocchi bolognaise. Oui. Alors oui, je sais qu'au niveau tolérance, acceptation de l'autre, vous essayez de montrer l'exemple, c'est bien, mais attention, faut pas aller trop loin non plus, mon petit bonhomme. Et là, je pense aux 3 films de super-héros issus de la diversité que vous avez produits et qui n'ont pas marché du tout, même, tenez, je les cite, Les Aventures de Mégaviette, le super-héros asiatique, La Malédiction de Caravan Boy, le super-héros gitan, et bien sûr, le film dont le personnage principal est un super-héros islamiste, Jihad Joe. Mais bon, une fois encore, monsieur Guy, et le pire, c'est qu'au fond, vous le savez très bien, vous avez dit...
N'importe
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Carole Rocher et Thomas Njijol sont à l'affiche et à la réalisation et à l'écriture de Black Snake, la légende du serpent noir, avec des scènes qui seront cultes. Je pense notamment au duel avec Jérôme Le Banner, qui est juste, mais c'est le truc de dingue. On se dit c'est Hulk. Il se fait une piqûre avec des veines qui ressortent et ça va être un carnage. Et c'est un carnage.
Oui.
À découvrir le 20 février au cinéma. C'est extrêmement drôle. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin de 8 milliards d'effets spéciaux et de cascadeurs pour faire rire à partir d'une scène de combat. La preuve.
Oui. C'était, en vrai, en plus, c'est plus là, pour le coup, cette scène.
Ah, c'était en vrai?
Non, c'était vraiment une vraie question économique, en fait. À un moment, on commençait à être sur le fil et puis il a fallu adapté pour le coup vraiment le scénario, et j'ai dit on va faire ça. Je peux pas dire l'issue de la bagarre, mais
phrase de Marine Carmis à propos d'un film pour Godard, je crois, à l'époque, de la contrainte naît le génie.
Exactement, là pour le coup c'était la contrainte, elle nous a vite mis dans le dur, et le dur s'est transformé en coup d'essai, donc on est très heureux.
Ça vous a donné, Carole Rocher, envie de réaliser un prochain film, mais plutôt sur une histoire d'amour, vous dites?
Ouais. Comment vous savez?
Mais parce que vous l'avez dit.
Ah ouais?
Parce que vous l'avez dit.
Oui, exactement.
Une histoire d'amour un peu particulière. En quoi est-elle particulière?
Alors écoutez, c'est très difficile de parler d'un scénario qu'on a...
Il est en cours d'écriture?
Ouais, je suis en train de le finir. Non, c'est en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'amour, ça révèle toutes nos failles. Le vrai amour. C'est-à-dire que moi, face à quelqu'un que j'aime, j'ai l'impression d'être la plus moche de la terre, j'ai peur qu'il m'abandonne, enfin bon, c'est tout un problème.
En toute confiance.
Non mais selon notre base...
Mais fais gaffe, parce qu'elle entend tout ce que tu penses. C'est moche.
Non mais selon notre base affective, comment on a été consolidé ou pas sur
encore
la confiance
une fois,
en
d'où
soi.
D'où on vient.
Voilà, et donc ça me ferait marrer, même si c'est pas drôle en soi, de filmer deux personnes qui ont un cursus un peu compliqué ou pas, en tout cas pas très facile, qui se rencontrent et qui tombent follement amoureux. Et là, il se passe... beaucoup de problèmes en eux, mais ils vont peut-être se sauver ou pas, on verra, mais voilà.
Est-ce que
mais en tout cas, filmer l'amour chez des gens pour qui c'est pas un cadeau, c'est ça que j'ai envie, en fait.
Et Black Snake vous encourage à réaliser et jouer?
Oui, bien
dans
sûr.
Le film, faire les deux?
Ah oui, oui. Oui, pour l'instant, moi je suis comédienne. Voilà, et j'aime ça, mais passionnément. Donc pour l'instant, je ne me vois pas ne pas aller jouer sur le terrain. Mmh. Voilà. Je pense que je serais trop frustrée et j'ai vraiment pas envie de me retrouver dans une situation où il y a un peu d'amertume, où je suis un peu frustrée.
Et quelle autre envie retrouver justement ceux dont vous parliez tout à l'heure en amitié, en espèce d'urgence d'avoir les comédiens, les actrices que vous aimez, faire tourner des gens que vous aimez, pas
c'est
forcément des gens dont vous rêvez d'ailleurs et que vous ne connaissez pas. Vous préférez d'abord
oui ou ceux que le cercle proche. Il y a des gens peut-être que j'ai envie de rencontrer parce que j'aime leur travail et j'aime surtout ce qu'ils dégagent en fait. Mais
sans savoir si vous pourriez accrocher ou pas avec eux d'ailleurs.
C'est, oui, c'est après, une image extérieure. Non, des gens que je connais, voilà. Mais faut rencontrer les gens après. Mais voilà, mais en tout cas, oui, je me vois pas faire un film pour l'instant dans lequel je ne joue pas et avec des gens
que je n'aime pas.
Voilà, c'est pas comme si j'avais écumé tous les gens que j'aime dans un film. Je viens de commencer mon petit métier de réalisatrice donc. Je vais aller vers les gens que j'aime vraiment et j'espère que je... Voilà, moi j'ai envie de faire un film où il se passe des vraies choses.
Le 20 février sort ce film Black Snake. Il se passe quoi après le 21 et les jours qui suivent, Thomas Njijol, pour vous?
Il y a un ménage à la maison. Les courses, tout, et un bordel de malade mental.
Déjà.
Et bonne Saint-Valentin.
Ouais, c'est ça, exactement.
Non, l'écriture d'un seul en scène de...
Non, j'ai pas trop envie parce qu'on a une fille en bas âge de qui a un an, notre dernière fille, et j'aime bien être à la maison et la tourner. Enfin, le spectacle après m'amène en tournée. J'ai pas trop envie de partir. Là, je me sens pas prêt dans la tête à tout ça. Mais j'ai déjà écrit un nouveau long métrage en fait que je vais commencer à développer en pré-prod V2, V3 et tout. Donc je suis déjà en plein dedans comme Carole avec le sien.
Et la réalisation de vos projets à l'un comme par l'autre est suspendue au succès de Black Snake ou vous pensez que ce sont des choses totalement différentes?
Pas du tout.
Non, parce qu'on peut aussi.
Non, parce qu'on n'est pas, et puis aussi on fait des films dans une économie raisonnable. C'est pas des choses qu'on imagine avec.
Des super productions qui
plein de thunes et tout. Non, on aime vraiment beaucoup le cinéma. On essaie on a notre petite boîte d'artisans et on fait des choses à notre. Auteur, si je puis dire.
Je suis en train de monter un festival de films à Ajaccio.
À Ajaccio.
Ouais, voilà, ça c'est un autre projet.
D'accord, c'est pas étonnant. Et quel serait le thème? Parce que le lieu, on a compris, mais
ramener à Ajaccio tout ce qui se passe ici à Paris. Pouvoir transmettre au peuple corse, pouvoir leur donner l'espoir et l'envie et décontracter un petit peu toute cette idée de la cinéphilie.
Ça ne se passe qu'à Paris, ça ne sent pas
voilà, tout ce qui se passe à Paris, le ramener à Ajaccio.
Ce qui existe déjà avec Deauville, Cannes, Cabourg, Angoulême, des festivals déjà. Angoulême aussi. Daniel Morin, des excuses à présenter.
Bien évidemment, désolé pour Clint Eastwood qui m'a envoyé à la pause un fax pour me prévenir qu'en aucun cas il ne voulait être comparé à Carole Rocher. Il a dit non, trop violente la meuf, je suis encore traumatisé par Braco. Désolé pour monsieur Rollman qui, on l'a compris, n'aura pas droit à la fête du slip ce soir. Mon pauvre, mais pas chez Nagui. Il y a un dîner-conférence sur Saint-Valentin et Chlamydia. C'est animé par Clara Morgan et Patrick Balkany.
Exact.
Et désolé pour nos auditeurs qui en ont dans le froc et qui ont trouvé l'émission de ce matin un peu nunuche, pleine de bons sentiments guimauve et que j'aime les enfants, nanana. Et que la transmission ni, et que l'amour nu. Oh, Thomas, il est où, Black Snake? Viens, on va cogner des enfants, on va cogner des faibles. Allez, on y va, mince à la fin. Oui, Nagui.
Non, tu veux. C'est-à-dire que.
Leïla?
Mais non, c'est scandaleux. Leïla me glisse une vanne pour finir l'émission, je ne l'assume même pas.
C'était quoi?
Merci mille fois.
Merci à toi.
C'est Black Root, tu vas oublier. C'est dans le film, c'est dans le film. Le 20 février, sorti de Black Snake.
Merci. Pour sortir
Black
d'une pièce,
Snake,
c'est
ça sortira le 20 février. Merci Carole Rocher, merci Thomas Gidol et bravo.
À vous.
Surtout à suivre les carnets carnet de campagne de Philippe Bertrand. Demain, c'est Tahar Ben Jelloun, le prix Goncourt, qui sera notre invité.
Oui, bonjour. Et qui est ce type qui se fait passer pour moi, là?
Oh, la imitation.
Non, mais c'est incroyable. Eh, j'ai jamais entendu ça.
Il essaye de faire ta voix,
oui,
Thomas.
Oui, j'ai compris.
N'aie pas peur. C'est Philippe Bertrand.
Ah, waouh.
Wow. Wow.
Bravo, Philippe.
Non, non, je l'encourage pas.
Ah non, mais moi,
je vais continuer. Continue.
Je peux te dire, ton patron t'écoute aussi. Continue.
Ah bah c'est fini.